franceinter.fr.
Après avoir étudié les arts du spectacle à l'Université Paris 3, Victoria Cahario a réalisé plusieurs courts-métrages diffusés sur France 3 et Canal+. Quelques années à Vancouver et de retour en France, Victoria enseigne le français langue étrangère à Paris 5 et à Sciences Po. En tant qu'auteur, elle a plusieurs fois écrit pour France Culture, Les Transports en commun des mortels, Lire Palude, Se faire la belle et plus récemment Le Crépuscule des idoles des jeunes. Le meurtre de Descartes est sa première nuit noire et comme de bien entendu, l'action se passe dans une université.
Nuit noire, Patrick Légibel. Le meurtre de Descartes, de Victoria Cahario.
C'est l'histoire d'un homme jaloux de son frère. C'est l'histoire d'un frère imbu de lui-même. C'est l'histoire d'une femme qui meurt.
Tu écrivais ça dans un scénario, personne n'y croirait. Je t'en prie. T'avais un projet d'écriture, non? C'est un truc de flic, maintenant, d'écrire des polars.
Trop long fait, et tout a été dit. Mal dit.
T'aurais un beau sujet, pourtant. Retrouvailles entre frères sur la scène du crime.
Ou plutôt, meurtre chez les linguistes.
Entre nous, j'y crois pas une seconde.
À quoi?
À l'assassinat de Madeleine.
Non?
Non.
Il n'avait pas d'ennemis à l'université? Directrice de l'UFR de linguistique à 40 ans, elle devait faire des envieux, non?
Oh, tu sais, diriger un UFR, c'est bien moins rigolo que ça en a l'air. C'est de la paperasse avant tout. J'ai occupé le poste un moment, d'ailleurs.
Oui, maman m'avait dit.
Et j'ai fini par lâcher. Ce genre de responsabilité te coupe du terrain. Tu as les honneurs, certes, mais tu es dans le sale. Mais alors, le sale quotidien. Enfin, la paperasse, tu connais ça, ce que maman m'a dit.
Donc, pour revenir à cette Madeleine Biorot, tu me dis qu'elle n'avait pas d'ennemis ici.
À part quelques rivalités classiques entre chercheurs, non.
Du genre?
Madeleine travaillait sur le Cualtech, un parler d'Indiens du Mexique. Avant qu'elle ne leur mette le grappin dessus, c'était le terrain de Robert Anjou et de sa femme Micheline. J'ai moi-même travaillé sur le parler des Indiens, mais au Pérou. Oh, ça a été une expérience passionnante. Tu sais qu'ils n'utilisent pas de prénoms pour nommer leurs enfants, mais des numéros? Alors tu vois, si toi et moi, on avait grandi chez eux, je me serais appelé numéro 1 et toi, numéro 2. Étonnant, non?
C'est l'histoire d'un frère qui ramène tout à lui.
Et pour les mariages, c'est encore autre chose. Et c'est fascinant, linguistiquement.
Et de l'autre qui continue de l'écouter, tout en se disant que c'est quand même fou que quelqu'un d'aussi imbu ait choisi un métier qui consiste à écouter les autres. Non, qui consiste à récolter le parler des gens. Comme il dit, le parler des gens, comme c'est un but. C'est ce que se dit le frère jaloux qui a choisi un métier où il n'est pas question du parler des gens, mais plutôt de leur déballage de linge sale. C'est donc l'histoire d'un frère jaloux qui écoute les autres déballer leur linge sale et qui, du coup, doit payer une fortune pour qu'un psychanalyste l'écoute déballer le sien. Psychanalyste en question qui doit lui-même payer quelqu'un pour l'écouter. Combien paye le psychanalyste pour qu'on l'écoute à son tour? Encore plus cher que ses patients? Et que fait le frère du psychanalyste, si frère il a? Il faudrait savoir et trouver, comme pour une devinette. Si le frère du flic est linguiste, alors que fait le frère du psy? Jolene, 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 Jolene.
Vous êtes Jolene, Micheline Anjou?
C'est moi.
Je suis l'inspecteur Lavigne.
Hein? On a un Lavigne au département, Paul Lavigne. Des bourguignons.
Exactement. Je viens vous voir à propos de Madeleine Biorou.
Dont la mort ne me fait ni chaud ni froid, on a dû vous le dire.
En effet.
Voilà, c'est dit. Le soir de sa mort, j'étais à une conférence. Dieu sait que je n'en donne plus souvent. La chose fut peu enrichissante et s'est déroulée à l'ENS, dans la ville de Lyon. École normale supérieure. Le soir, après avoir bu du mauvais vin et mangé du mauvais canard, j'ai dormi dans un hôtel aussi médiocre que les conférences que je me suis coltinée toute la journée. Je suis aigrie, hein ? J'ai évidemment des preuves de tout ce que j'avance. Quant à Biorou, Dieu sait que j'aurais aimé l'étrangler, l'empoisonner ou la faire pendre, mais je n'y suis pour rien.
Pouvez-vous m'en dire un peu plus ?
Sur Biorou ?
Et à propos de vos relations, plutôt...
Mais je vous dis que j'étais à l'ENS ce soir-là, c'est agaçant. J'ai un cours. Il commence dans 7 minutes. J'ai beau faire ce métier depuis plus de 30 ans, je traque toujours et j'ai besoin de me concentrer avant de commencer.
Ce ne sera pas long, pure formalité.
Bon. Alors, posez-moi des questions.
On m'a dit que vous aviez travaillé sur des Indiens.
Des Indiens, mais ça ne veut rien dire, des Indiens. On n'est pas chez Agatha Christie, sapristi. Et encore moins chez Spirou. Mon mari et moi avons travaillé sur la langue Kualtek. C'est certainement là que vous voulez en venir. Mais avant cela, et pendant des années, nous avons étudié bien d'autres langues. Des langues quasi mortes, agonisantes, en voie de disparition, quoi. Et nous les avons sauvées. On s'est battus comme des lions pour obtenir les subventions nécessaires. On est allé sur le terrain, des années et des années de terrain. On a récolté des kilomètres et des kilomètres d'enregistrements qu'on a transformés en des pages et des pages de retranscription. Nous avons résolu de véritables casse-têtes mathématiques parce que ce sont des mathématiques, les langues. Vous saviez ? Et à votre avis, tout ça, pourquoi ? Vous le savez ? À votre avis, pourquoi ? Et comment sauve-t-on une langue ?
Aucune idée.
En la comprenant, en comprenant sa structure. Eh oui, monsieur l'inspecteur, sauver, c'est comprendre. Ça a du sens, non ? Pas que pour les langues, d'ailleurs, non ?
Pour revenir à Madeleine Biorou.
Elle a tout gâché, notre vie et notre travail. Je pèse mes mots.
Oh.
Mon mari a eu la sotte idée de lui proposer de venir au Mexique. À l'époque, ça n'était qu'une petite thésarde de rien du tout, une fille insignifiante, comme on en trouve plein les wagons de métro. Avec Robert, on avait accepté de la co-diriger. C'était la première fois. Jamais nous l'avions co-dirigée auparavant. Mais Robert avait insisté, elle était tellement brillante. Une fois là-bas, elle s'est littéralement transformée.
En quoi ?
En vampe.
Il s'est passé quelque chose entre elle et votre mari ?
Non, pas du tout, c'est bien pire que cela. Elle a ensorcelé Emilio, le dernier locuteur du Kualtek. On travaillait avec lui depuis des années, main dans la main, des heures et des heures, des bandes et des bandes, des pages et des pages. C'était devenu un ami, évidemment. Je ne sais pas comment la petite a fait. Et le résultat a été qu'une semaine après son arrivée, le vieux de plus de 80 ans ne jurait plus que par elle. Il ne voulait plus parler Kualtek qu'avec elle. Robert et moi, nous n'avions plus qu'à foutre le camp.
C'est donc elle...
qui a publié la recherche, reçu les honneurs et tout ce qui s'ensuit. Du vol, quoi. Quant à Robert... le choc a été tel qu'au retour, il s'est découvert une passion pour le parler des jeunes de Clichy-sous-Bois. Depuis, il est obsédé. Le verlan, les keufs, les bolos, tout ça.
Ce n'est pas inintéressant, ce parler-là.
Oui, vous pouvez rigoler dans votre barbe de bobo. Mais vivre avec un papy linguiste qui porte une casquette à l'envers, je vous promets que ce n'est pas rigolo tous les jours. Croque, ça commence et j'ai pas répété.
Je vous remercie infiniment pour votre temps et ces détails sur vos travaux.
Vous me tiendrez au courant. Je suis curieuse. On est tout autant du destin des gens que l'on aime que celui des gens que l'on déteste, non?
Absolument.
Les enfants, je ne suis pas prêche. Alors aujourd'hui, comme au théâtre, on improvise. Je viens de prononcer le verbe « aimer » et le verbe « détester » avec monsieur l'inspecteur.
C'est l'histoire d'un couple de passionnés. Ils ont certainement oublié de faire des enfants, trop obnubilés qu'ils étaient par leur croisade linguistique. Sur le tard, la vie leur offre une progéniture de substitution. Une jeune femme tout aussi passionnée qu'eux, et paf, une fois adoptée, elle les poignarde dans le dos. Elle leur enlève ce qu'ils avaient de plus précieux. Elle les fait payer. Biorro avait certainement des problèmes avec ses propres parents.
Excusez-moi, vous êtes l'inspecteur qui s'occupe du meurtre de Madeleine Biorro ?
Du meurtre ? Comme vous y allez ?
Je suis Alice, une de ses anciennes étudiantes. Et voici Sacha et Macha qui étaient ses élèves, elles aussi.
Bonjour, monsieur l'inspecteur.
En quoi puis-je vous être utile ?
Eh bien, c'est que... nous avions pensé que ça serait intéressant pour vous de nous interroger.
Enfin, surtout Alice.
Oui, surtout Alice.
Elles disent cela parce que j'étais...
un espoir.
Plus qu'un espoir. La relève.
Non, rien de tout cela. J'étais simplement proche de Madeleine Biorro. J'ai fait mon mémoire de master avec elle.
Elle a eu 19,9 sur 20.
Une première dans le département.
Les jumelles. Et depuis la rentrée, je préparais ma thèse sous sa direction. Vous avez quelques minutes ? Vous avez entendu ce que Micheline Anjou a dit tout à l'heure sur l'amour et la haine ?
Vaguement.
Madeleine Biorro était très forte pour déclencher ces sentiments-là chez ses élèves.
Chez vous, par exemple ?
Oh !
Non. Elle et moi avions réussi avec le temps à dépasser cela. Mais malheureusement, avant moi, il y a eu pas mal de dégâts avec des doctorantes.
Et avec certaines élèves de master aussi.
Disons qu'il y a eu des soucis avec toutes les élèves qu'elle a accompagnées dans des travaux de recherche.
Ah.
Évidemment, vous vous dites que ce genre de querelle prof-élève ne termine pas dans la rubrique faits divers des journaux, mais avec Madeleine, ça pouvait aller vraiment très loin.
Comme une corrida.
Une corrida ?
Biorro repérait les élèves les plus brillantes en licence. Elle les encourageait un maximum, elle leur consacrait du temps, leur confiait de petits travaux de recherche. Évidemment, ces étudiantes flattées se mettaient à s'attacher à elle et à s'imaginer une carrière universitaire. Une fois en master, elle leur proposait de les suivre. Et aux plus brillantes des plus brillantes, elle proposait une thèse.
Et c'est là que le taureau
rentrait dans l'arène.
La thèse n'est pas une mince affaire. C'est un investissement, un sacerdoce même. On est très isolé. Il y a le sujet de thèse, le directeur de recherche et soi.
Une communication triangulaire.
Il faut qu'elle soit triangulaire, comme dans toute dramaturgie. Vous connaissez René Girard ? Il a montré que le désir est forcément triangulaire.
Il faut être trois pour créer du désir.
Et pour faire une thèse, il faut aussi du désir, et donc de la triangulation. Quand les étudiantes se lançaient dans leur thèse, Madeleine, subitement, ne jouait plus son rôle dans le triangle.
Ce qui est d'une extrême violence.
Imaginez, si la thésarde est Juliette et sa thèse Roméo, que deviennent-ils sans Mercutio ?
Rien.
Leur histoire n'a plus aucun intérêt.
N'est-il pas possible de remplacer Mercutio en cours de route ?
Vous ne connaissez pas le monde universitaire. Non. Dans l'isolement, beaucoup ont fini par renoncer. D'autres ont tenu seuls jusqu'à la soutenance. C'est là que Madeleine leur donnait le coup de grâce. Elle pouvait démolir des années de travail en trois phrases assassines. Alors certaines ont perdu la tête, d'autres ont tout abandonné, divorcé. Elle recevait régulièrement des lettres à moitié anonymes, des menaces.
La thèse n'est pas une mince affaire.
Et qu'est-ce qui vous fait penser que les choses auraient été différentes avec vous ? Car si je comprends bien, Madeleine Biorro avait un problème avec les jeunes femmes.
J'ai vite compris son fonctionnement et j'ai désamorcé la bombe. Madeleine souffrait de ne pas trouver sa place et elle voyait des rivales partout. Après quelques recherches sur Internet, j'ai découvert qu'elle appartenait à une famille richissime. Après la mort de ses parents dans un accident d'avion, elle et sa sœur se sont battues comme des lionnes pendant des années pour récupérer la fortune.
Derrière ça, c'était de l'amour parental qu'il s'agissait.
Bien sûr.
Sa petite sœur étant juge a réussi à la faire déshériter. D'où sa méfiance et sa peur depuis qu'on la dépossède.
Et vous aviez évoqué tout cela directement avec elle ?
Bien sûr que non. mais je suis adepte de la pleine conscience. Je vis dans l'instant présent et dans rien d'autre. Le passé et le présent n'existent pas pour moi. Je suis vous et vous êtes moi. J'ai simplement aidé Madeleine à comprendre que je ne pouvais rien lui prendre puisque j'étais déjà elle et qu'elle était déjà moi. Nous n'avions que des expériences à vivre, ensemble. Elle s'est enfin mise à respirer et à trouver en elle le désir d'aider les autres.
Par exemple avec Lavigne.
Lavigne ?
Oui, Paul Lavigne, un prof de la fac.
Complètement imbu de lui-même.
Ses recherches sont vraiment inintéressantes.
Du déjà vu. Il y a même eu des pétitions d'élèves contre lui. Il aurait dû être renvoyé.
Mais par compassion.
Et pour ne pas précipiter quelqu'un déjà au bord du gouffre.
Madeleine s'est battue pour qu'il conserve son poste. Il donne quelques heures de cours aux étudiants de première année. Mais pour le reste, c'était trop tard.
Pardonnez-moi. Oui ? Alors ? Bon, je suis en rendez-vous, je vous rappelle immédiatement.
Le temps a passé vite. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé en notre compagnie. Ce fut une longue conversation pour un adulte de votre âge. Des études prouvent que les adultes de plus de 40 ans ont de moins en moins de conversations intéressantes et qu'elles sont de plus en plus courtes, ce qui est fort dommage. Le temps presse tout le temps, non ? Peut-être que dans votre métier, c'est un peu différent.
Ce fut très instructif, je vous remercie. Drôle de jeune fille, d'un genre nouveau ou alors très ancien. Elle est adepte de la pleine conscience. J'ai essayé un temps de vivre dans le moment présent. Mais mon métier m'oblige à une élasticité temporelle inconciliable avec ce concept-là. Oui, c'est Lavigne. Donc, pour Biro, c'est confirmé, hein, c'est un suicide. Évidemment, oui, c'est bien ce que j'avais dit. Oui, un cas d'école, je dirais. Bon, j'avais un rendez-vous médical ce matin, mais je serai au bureau d'ici 14 heures. Et merci, à tout à l'heure. Jolene, 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 Jolene.
Alors, ça avance ?
Dis donc, Paul, tu connais cette chanson de Dolly Parton, Jolene ? Ça te rappelle quelque chose ?
Tu te fous de moi ?
Bah non, quoi.
C'est la chanson que j'écoutais en boucle en préparant mon bac. À l'époque, tu sortais avec une fille, Aline, qui était tombée amoureuse de moi. C'était pas de ma faute, mais elle avait tellement insisté qu'on avait fini par flirter. Ah, ça t'avait mis dans tous tes états, d'ailleurs. Tu sais que j'avais eu la meilleure note de tout le département.
Madeleine Biorro s'est suicidée. Je le savais bien avant de mettre les pieds ici à Descartes. Ce sont certainement ses détestables rapports avec sa sœur qui l'ont poussée à l'acte. Cela, au moins, je l'aurais appris ici. Cette visite demeurera certainement la plus faussement professionnelle de toute ma carrière. Drôle que ce suicide soit lié à un lien sororal. Le sororal, le fraternel, quel impact. Les choses auraient-elles pu s'améliorer avec le temps entre elle et sa sœur ? Grâce à Alice, peut-être ? Grâce à une analyse ? Et moi ? Où en suis-je de mes rapports avec ce frère imbu et bavard ? Je suis clairement venu ici pour le retrouver, mais pour lui dire quoi ? Pour comprendre quoi ? Faudrait que j'en parle à mon psychanalyste, parce qu'une chose est sûre, Paul, lui, ne me laissera pas parler.
C'était Nuit Noire, Patrick Liégibel. Le meurtre de Descartes, de Victoria Cario. Avec Jean-Luc Porraz, Pierre Osda, Francine Berger, Anne Bouvier, Caroline Victoria, Sophie Froissart. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Catherine Lemire. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr. Dans un instant, une seconde nuit noire. Meurtre à Venise, de Françoise Henry. Children, no.
Après une enfance et une adolescence paloise, Françoise Henri entreprend sa migration vers la capitale où elle prend des cours de théâtre, devient secrétaire chez des éditeurs et trouve encore le temps d'écrire. Ses romans sont remarqués par Calman Lévy, Grasset ou encore Gallimard, qui la publient. Derrière sa voix de source, fragile et poétique, se cache une grande sensibilité et un intérêt constant pour tous les malheurs que notre société nous fait vivre. Cette nuit, Françoise nous invite à une promenade chez Guardi et Canaletto.
Nuit noire, Patrick Liégibel. Meurtre à Venise, de Françoise Henri. Réalisation, Catherine Lemire.
Je m'appelle Marella Brovedani. J'habite Sestiere di San Polo, un quartier au nord de Venise. Je vends des bijoux sur le Rialto, vous savez, des pendentifs en verre soufflé à 2 ou 3 euros. Le jour où ça s'est passé, j'étais restée chez moi pour soigner mon fils malade. Mon fils a 9 ans. Mon mari est parti avec une autre femme il y a un an. J'épongeais la sueur du front de mon fils. Il faisait très chaud. J'avais les volets fermés, mais à un moment, je les ai ouverts pour faire passer un peu d'air. Alors, j'ai vu la femme. Elle prenait la Calle San Suane. La Calle San Suane se termine par des marches qui descendent dans la mer, défendues par une chaîne rouillée et une petite balustrade en fer, rouillée elle aussi.
Elle s'arrête là. Sous ses yeux passe un poisson, presque noir, lentement, à l'endroit exact où la première marche prend l'eau. Elle ne bouge pas. Il est 2 heures de l'après-midi. Je m'appelle Manolo da Ponte. Je suis écrivain et j'ai 45 ans. J'habite à Paris, mais j'ai ce petit appartement à Venise, au 2417. Ce jour-là, c'est le jeudi 7 août. Dès que j'arrive ici, je branche mon ordinateur portable. Le matin, je me lève tôt, j'achète le journal, je bois un café. C'est calme. À 9 heures, je suis chez moi. Je n'en bouge plus jusqu'à 18 heures.
Sono la Paola, Paola Fiumicelli. J'habite ici, au 2457. J'étends le linge, je cuisine. Dès le matin, 7 heures, je cuisine, car nous sommes nombreux. À 2 heures de l'après-midi, tout est tranquille. Ils font la sieste. Je vais de temps à autre tâter le linge qui sèche. Ça me donne un rythme. Quand je me suis penchée à la fenêtre, j'ai vu cette femme. C'était étrange. Il n'y avait qu'elle dans la rue. Elle a levé les yeux vers moi, vers le linge plutôt, qui pendait sur un fil très haut au-dessus de sa tête.
Un slip, 2 serviettes de toilette, un petit corsage blanc, une robe.
J'ai fini mon geste,
paire de chaussettes,
j'ai fait un signe de tête.
Un pantalon.
Elle ne l'a pas vu.
De tête oreille.
Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose pour elle.
Elle passe devant une boîte à lettres marquée « Lettere ». Elle lit les noms qui sont écrits. Elle n'en connaît aucun.
Elle s'est arrêtée devant le magasin de masques. Mon nom, c'est Simonetta Bertaglia. Vous cherchez un témoin?
Elle arrive au Campiello del Cristo. Elle est seule. Il y a beaucoup de femmes seules ce jour-là. Elles ont une démarche d'oiseau, libre. La femme arrive à une plus grande artère. Fondamenta del Rio Marine o dei Gargotti.
Fondamenta. Ça veut dire quoi?
C'est un dialecte vénitien, mon amour. Ça veut dire « là où tout commence », c'est-à-dire « la mer », là où tout commence.
Le bruit des criquets s'intensifie dans ces rues désertes. Je suis au 2450, juste au-dessus de la boulangerie qui a fermé. Moi aussi, je suis une femme seule. Est-ce que j'ai une démarche d'oiseau? La femme arrive « Calle del Loggio » ou « de cafetière ». Tourne sur la droite, vers une place qui n'a pas de nom, qu'on croirait abandonnée. Sauf que, au 2457, sèche du linge devant la fenêtre. Elle remarque que cette place, en fait, est nommée Orte.
Qu'est-ce que ça veut dire, Orte?
Je suis la femme tout en noir, avec la longue robe noire pleine de dentelles. Et le masque noir, avec les plumes d'autruche noires. À l'entrée du magasin de masques, vous voyez? Le mannequin, c'est moi, Simonetta Bertaglia. J'ai tout vu ce jour-là. Elle m'a regardée.
C'est beau, cette robe noire.
La femme est dans la corte del Calderer. Des fleurs de bignonia passent par-dessus un haut mur de pierre. Il y a un puits, avec une belle margelle, tout entourée de lierre. La place est silencieuse. Là encore, la femme remarque que tous les volets sont fermés.
Sauf une fenêtre, ouverte, au 2417.
Du linge y sèche, du linge clair, flottant au vent, sur un fil qui part de la fenêtre et va jusqu'au grand mur de pierre qui abrite le bignogne. Le mouvement du linge qui sèche au vent est le seul mouvement de la cour. Profite, profite, Paola. Ils vont bientôt se réveiller.
Au fond de la ruelle se trouve une boulangerie, au numéro 2450. Elle est fermée depuis longtemps.
Panificio.
Elle avait faim, peut-être. Qu'est-ce que j'aurais pu faire?
Elle continue la rue où, de loin en loin, circulent des femmes seules. Elle débouche sous le campiello del Fornero, del Marangone. Elle voit une terrasse de café. Il y a peu de temps encore, des gens se sont assis ici. Il reste deux verres sur une table. C'était de nous, peut-être. Quelques miettes. Elle a envie de s'asseoir, elle aussi.
Elle avait soif, sans doute.
Aujourd'hui, toutes les fontaines de Venise sont fermées. En signe de deuil de notre amour.
Pourquoi? Pourquoi elles sont fermées?
On ne croit pas que j'ai été témoin. Je suis à l'entrée du magasin, un grand mannequin. On croit que je suis un mannequin, mais non. Je suis une femme, en chair et en os.
Sous le campiello del Scuole, elle remarque la chiesa di San Giovanni Evangelista. Elle n'entre pas dans l'église. Elle ne peut pas. Elle ne doit absolument pas faiblir. Au 2454, un couple d'amoureux chuchote assis sur les marches du perron. Je savais bien qu'elle était malheureuse. Si seulement j'avais pu faire quelque chose. C'était écrit dans le journal le lendemain. Vous vous souvenez?
Je la guette. Je ne la quitte pas des yeux.
Ça y est, ils sont réveillés. J'aurais aimé partir. Partir très loin. Je la comprenais, cette femme. Elle en avait assez. Assez de cette vie. Mais quand est-ce que cette vie va prendre fin? Laver, étendre, ôter des fils, repasser, ranger, éplucher, laver, cuire, cuisiner, servir, manger, laver, ranger. Sono la Paola, sono la mamma. Basta!
Elle a pris, au sortir de la petite place ensoleillée, la Calle della Lacca. Libre, seule.
Calle della Lacca.
C'est une ruelle si étroite, déserte. Ses pas, bien qu'elle soit chaussée des sandales plates, font flap-flap, tant le silence est énorme. Le bruit des criquets s'intensifie. C'est comme un rythme, accordé au battement de ses pensées et de ses pas. À quoi pense-t-elle?
Est-ce qu'à l'intérieur de soi, tout peut tellement grandir et grossir qu'on n'arrive plus à s'en débarrasser? Dans ce cas, il faut tout jeter, l'enveloppe et ce qu'il y a dedans.
Sotto portego della Lacca. Ça l'attire, ce petit porche, ou plutôt ces arcades. Comme tout ce qui vous couvre, vous protège. J'ai tout observé, tout vu. Rien ne sera écrit. Mais elle passe outre. Une seule chose qu'elle sait...
Venise est mon amie. Venise est mon amie.
Elle murmure aussi...
Je suis folle, peut-être.
Mais oui, tu es folle. Tu n'as pas t'excuser sans cesse d'être là, je lui ai dit. À circuler sur la pointe des pieds pendant que je travaille. Ça m'énerve.
Oh, un chat.
Je suis le chat. Il gatto. Je l'ai vu passé dans le cortiello. Ce jour-là, le 7 août, je vaquais entre le 3071 et le 3072. La rue était déserte. Elle avait besoin de solitude, comme moi. Elle a cherché à me parler. Elle a fait...
Un chat !
Car c'était une Française. Puis, elle m'a reconnue.
C'est toi ? Tu m'as suivi ? Va-t'en,
parce qu'elle a pensé... Je sais qu'elle l'a pensé juste après m'avoir vu.
Un chat noir, on dit que ça porte malheur.
Puis, elle a pensé que plus rien ne pouvait lui porter malheur. Même si j'étais noir.
Noir.
De toute façon, c'était trop tard. Elle m'avait vu. Moi, je faisais juste mon petit tour, comme d'habitude. J'ai pas le droit, peut-être.
Ramo San Nicolato. Elle est seule. Si heureusement seule. Personne ne le verra. Elle tourne sur la gauche, dans une impasse. Au 3078, tout est fermé. Au fond de l'impasse, il y a une grille. On peut sonner si on veut. Une sonnette pour la nuit, notte. Une pour le jour, giorno. C'est écrit, elle déchiffre.
Frati minori conventuali. Ce sont des moines.
Derrière la grille, il y a un jardin. On entrevoit un fragment de banc, un peu de soleil. S'asseoir sans personne pour vous déranger.
Mais je ne vais pas sonner. Qu'est-ce que je leur dirai?
Les volets de la maison sont fermés. Je me grille au soleil qui longe le mur. Je la laisse rêveuse ou désespérée devant cette sonnette sur laquelle elle n'appuiera pas.
Ils auraient pu l'aider, peut-être. Des moines?
Non, tu ne partiras pas, il a dit. Si, je partirai, elle a dit.
Quand on croit qu'un homme ne vous aime plus, on est désespéré. On peut faire des choses insensées.
On oublie toujours qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut nous aider. Quand je regarde le linge voler au vent, je rêve que je m'envole avec lui.
Rio della Muneggeta. Et lit à voix haute.
Parroquia San Maria Gloriosa dei Frari.
Là, une femme chantait. Soudain, se sont élevés des chœurs derrière elle. Elle était beaucoup trop jeune pour moi, petit oiseau enfermé. Quand elle est partie, je lui ai dit : mais où tu vas comme ça, hein ? Où tu vas aller, toute seule, sans moi ?
C'est dans une église ? Un concert, quelque part?
Il n'y avait plus personne. Elle l'avait cherché.
Être seule dans Venise. Venise.
Mais d'où provenait ce chant?
Parroquia San Pantalone.
Soudain, le chant a cessé. Va-t'en, va-t'en, puisque c'est ce que tu veux, je lui ai dit. Mais je ne me laisserai pas faire. Je te préviens.
Ponte della scuola, calle della scuola.
Marche, marche, oublie, oublie. Tu es seul, enfin. Plus personne pour te dire « Parle pas comme ci, parle pas comme ça, comment peux-tu dire ça, c'est ridicule. Mais arrête de t'excuser sans cesse, pourquoi tu crois toujours que tu déranges, hein ?»
Venise déserte.
Venise déserte.
Venise déserte.
C'est la solitude de la femme qui grossit tout. Pauvre petit oiseau. J'aime bien les oiseaux, moi.
Le chant, c'était moi. C'était nous, les masqueres. Près de la parroquia San Pantalone. Regarde, on t'appelle. On est les sirènes.
Quand on s'en va, on est tout seul intérieurement. Alors on croit qu'il n'y a personne autour de soi.
Juste en face de la calle des Piovene, il y a une longue rue étroite. Je ponge la sueur sur le front de mon fils. Je n'ai que lui pour avoir envie de vivre. Lui, l'enfant. Lui qu'on ne remet jamais en question. La femme a pris la longue rue étroite. Calle della Saoneria. Elle lève la tête et voit les bignogna, rouges, qui débordent, charnus, fleuris, d'un vieux mur de pierre.
Rouge. Trop rouge.
À ce moment, tu te jures que tu dormiras toujours bien. C'est ce que tu m'as dit. Loin de toi, je dormirai toujours bien.
Ne plus jamais chercher le sommeil. Plonger là et dormir. Dormir.
Plus personne ne lui demandera jamais rien.
Tu nous entends chanter ? On est là, dans la vitrine du magasin où Stanley Kubrick a choisi et fait confectionner ses masques pour son dernier film, Eyes Wide Shut.
Chut, dors maintenant, mon petit garçon. Eyes Wide Shut.
Eyes Wide Shut. Faire l'amour. Juste un homme. Juste une dernière fois faire l'amour avant de mourir et ressentir ce frémissement, cette ardeur. Franchement, faites l'amour.
Le tout, c'est d'assumer sa petite folie intime.
Si seulement tu t'étais assumé un peu plus. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi 7 août. Tu dis que tu t'en vas. Tu claques la porte.
Alors, elle a pris la calle d'Andolo, au Civran.
Mais la calle d'Andolo, au Civran, ne mêle nulle part, petite conne. Je le savais. C'est un vrai labyrinthe.
Alors, je leur ai dit, puisque c'est comme ça, moi, je rends mon tablier, vous entendez? Et je l'ai crié par la fenêtre ouverte. Moi, je rends mon tablier.
Comme elle partait en claquant la porte, je l'ai suivie. Oh, par la fenêtre, bien sûr. J'adore escalader. Lui, il a ouvert son tiroir.
Je rends mon tablier.
Mais qui parle?
Qui chante?
Les Bignonia.
Mais moi, je n'assume pas cette petite folie intime.
Je suis au 2450.
Je suis au 2417.
Je suis au 2457.
Au 5079. J'étais là, dans la vitrine, tout en noir, avec mon masque noir garni de plumes d'autruche noires. Toute la vie n'est que comédie, tromperie, masque.
Mais qui es-tu?
Je suis... la femme en noir. Je suis toi.
Je suis aussi au 2417. Je suis le chat de Manolo da Ponte. J'ai tout vu. Interrogez-moi.
Elle n'a pas crié.
Personne ne l'aurait entendu.
J'étais avec mon fils.
J'étais avec mon linge.
J'étais avec mon masque. Je suis venue te chercher. Je suis la mort. Ta mort.
Alors je lui ai dit, barre-toi si tu veux, mais barre-toi!
Elle descend une marche. Deux marches. Où va-t-elle? Trois marches.
Dormir. Dormir. Oublier.
Eyes wide shut.
Je l'ai vue basculer. Soudain.
Elle était si jolie. Mais je ne supportais plus sa façon d'être.
Il ne supportait plus sa façon d'être. D'être, tout simplement. Il ne supportait plus qu'elle soit.
C'était pourtant 2 heures de l'après-midi, mais le temps que les secours arrivent sur l'eau, la détonation a réveillé mon fils.
On était tous à la fenêtre. Tu as vu ce qui s'est passé, maman? Il me demandait. Tu as vu ce qui s'est passé? Et j'avais envie de dire, oui, j'ai vu. J'ai vu cette femme que j'aurais pu sauver.
Dans son tiroir, il y a des papiers. Normal, c'est un écrivain. Il a ouvert le tiroir, il a regardé longuement, fouillé. Moi, j'ai pas voulu savoir, j'ai sauté par la fenêtre.
Elle portait une robe jaune, des cheveux fins, blonds, me semble-t-il.
Elle n'a pas poussé un cri, rien.
Elle a descendu les marches. Comme si elle ne voyait pas qu'elle plongeait dans l'eau. Amore mio.
Amore mio.
C'est moi qui l'ai attirée dans l'eau. Moi, Simonetta Bertaglia. Viens trouver l'oubli. Est-ce que tu as seulement fait l'amour une dernière fois? Une dernière fois quand même. avec quelqu'un qui t'aime. Qui t'aime. Vraiment.
Il y a eu du sang aussitôt. L'eau s'est teintée de rouge.
Je n'aurais jamais cru que l'eau pouvait si vite se teinter de rouge. Rouge comme les coussins de velours des gondoles. Toute rouge.
J'aime pas l'eau, moi. J'aime pas le rouge.
Je suis au 2417. Par une ouverture étroite entre deux murs de la Calle de la Mar, j'ai une vue directe sur la Calle d'Andolo au Civran. Juste de quoi faire passer le canon d'une toute petite arme.
Le lendemain, c'était écrit dans le journal. Meurtre à Venise. Dans le sestiere di San Polo, une femme française tuée à bout portant par une balle de petit calibre.
Il semble que la balle ait été tirée d'une fenêtre de ce quartier, très peu fréquenté ce jour-là.
Sans doute un crime passionnel.
Ils ont demandé s'il y avait des témoins. Il paraît qu'il y en avait quatre. Il y avait moi.
Il y avait moi.
Il y avait moi dans ma vitrine.
Mais quel était le quatrième ?
Le jeudi 7 août, il n'y avait personne dans les rues de Venise. Sauf moi. Moi, je sais. Moi, j'ai tout vu. Je sais qui a tué, moi. Je sais qui a tiré, mais je ne le dirai pas, par solidarité domestique. Et puis, tout le monde sait bien qu'un chat ne peut pas parler. Hein ?
Nuit noire, Patrick Liégibel. Meurtre à Venise, de Françoise Henry. Avec Jacqueline Corrado, Andrea De Luca, Luciana Castellucci, Bernard Bouillon, Evelyne Guimara, Françoise-Henri Cumère. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barret. Réalisation, Catherine Lemire. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.